I need to get to Birmingham in exactly 1 hour, 22 minutes. But how? A chair? But rocket-powered. Is that a thing? A chair on rockets? On rockets! A big fat rocket fest! Does sound a little dicey. Okay, how about a nice comfy chair on lovely sturdy wheels? Yeah, on super-fast tracks! Double yeah! And, wait, is it a Virgin train now? I suppose it is. Well, good. I'll do that. Virgin Trains, London to Birmingham in 1 hour 22 minutes.
Vous écoutez
RMC.
Les drôles de dames, jingle, c'est parti. Ah oui, parce que là il y a Ligue des Champions, là, on rigole plus là. Du coup, Simon Rovira, il s'est dit, eh oh, je reviens à Paris là, je mets ma veste des grandes heures et je viens en studio. Salut Simon.
Ciao, buonasera, bonsoir. Ouais, raison. La Ligue des Champions, ça commence maintenant.
Là, c'est les Italiens. T'arrives, t'entends que.
Ah oui.
J'ai l'impression qu'il a commandé déjà pour tout le monde. Il y en a un autre qui peut prendre de l'espace, c'est Fred Hermel.
Ah.
Salut Fredo.
Et d'ailleurs, il vient demain, là. Voilà, je serai avec vous demain parce qu'il n'y a pas de raison que Simonet soit sur le plateau et moi pas. Donc demain, je viens.
Tu pouvais venir ce soir, déjà. On pouvait aller bouffer à l'italienne là-bas, que tu connais, là.
Ouais, mais je suis au régime. Oh, la Ticos. Ah, ça fait du bien, la Ligue des Champions. Hein.
Futur prix concours. Hein.
Oh, non. Non, voyons. Modeste, tu sais.
Julien Laurence est parmi nous. Salut, Julien.
Salut à tous.
Salut, Julien.
Salut, Julien.
Et Polo Breitner. Salut, Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. L'Empire sera là aussi demain.
Eh oui.
L'Empire, j'adore.
Tout à fait. Et finalement, le seul qui ne sera pas là demain, c'est le mec qui est double tenant des deux Coupes d'Europe. Mais bon, c'est que vous voulez.
Je me fais désirer. Non, mais je viendrai bientôt.
On va dire des choses. En fait, c'est une question physique. C'est-à-dire que sur les plateaux vont les mecs qui physiquement, tu vois, sont un peu au-dessus. Quoi.
Ouais.
Julien, t'es sympa, mais t'es pas.
C'est ça que tu veux dire.
Ouais, t'as un physique de radio, Julien, d'accord, tu vois.
C'est vrai, tout à fait.
Bon.
Le mec, il est jaloux parce qu'il n'a pas gagné ses Coupes d'Europe l'an dernier, tu sais. Donc.
Démarrons sur la Ligue des Champions, si vous le voulez bien. J'aimerais que chacun puisse donner un peu les dernières nouvelles de ses clubs et de l'affiche principale pour lui cette semaine. Fred, on démarre par toi parce qu'évidemment, il y a PSG Real après-demain et il n'y a pas de confrontation avec des clubs italiens, allemands ou anglais cette semaine avec nos clubs français. Donc, à toi l'honneur pour le Real, les dernières nouvelles.
La grosse dernière nouvelle, c'est que Benjamin Ferland Mendy va être titulaire au poste de latéral gauche, puisque Marcelo, il est mal dans un choc contre l'Éventé, il est mal retombé et il s'est fait mal au cervical. Donc voilà, il est forfait pour demain, il ne sera pas dans la liste de Zizou.
Il n'y a pas Ramos.
Il n'y a pas Nacho non plus, qui peut jouer latéral
droit. Ça fait quand même une défense bis. Hein.
Ah ben, ce sera Carvajal. Je peux quasiment vous donner l'équipe, mais en tout cas, la défense, ce sera Carvajal, Militao, Varane, Mendy. Voilà. Mendy, attention, moi je pense même que il aurait pu être titulaire même avec un Marcelo en forme. Parce que on connaît les lapsus défensifs de Marcelo, commencer à l'extérieur à Paris, on sait qu'au niveau défense c'est pas terrible, alors que Mendy, lui, il a l'habitude et il sait mieux défendre et en tout cas il est plus actif en défense que Marcelo. Donc ça aurait pu être ce cas-là, mais ce sera ce cas puisque il n'y a pas d'autre alternative et Mendy est très en forme, donc ça peut être il n'a joué qu'un match pour le Real, c'était à Villarreal, il a été excellent, donc
rappelons que Modric n'est pas là non plus.
Modric est blessé, Isco est blessé, Hazard, moi je pense qu'il y a une grande chance qu'il soit titulaire. Il a fait une entrée d'une demi-heure. Pour rien vous cacher, aujourd'hui je me suis un petit peu baladé du côté de Valdebeba, j'ai parlé avec quelques personnes dont Hazard. Il est bien. D'accord. Il est bien, on sent que ça monte en... Voilà, tout ça commence à prendre forme. Le Real Madrid reste très fragile en défense. Il y a des lapsus défensifs, des erreurs de concentration. Même en menant 3-0 contre l'Evante, ils sont capables de se faire peur jusqu'à la dernière minute avec un arrêt extraordinaire de Courtois à la 93e pour éviter le 3-3 à domicile. Mais devant, ça marche bien, quoi. Et sincèrement... moi, je vais vous donner le 11 qui devrait être à peu près celui-là. Et vous allez me dire... Franchement, il n'y a pas eu de révolution, hein, mais c'est quand même pas mal ce 11. Courtois dans les buts, donc je vous ai donné la défense avec Carvajal, Militao, Varane et Mendy. Au milieu de terrain, on aura James Rodriguez normalement, Casemiro et Kroos. Et devant, Bale, Benzema, Hazard.
Et du BNB. Bon.
Ça fait quoi, ça, ouais.
Ça, oui, c'est quand même une équipe qui a de la gueule. Hein,
c'est quand même une équipe qui a de la gueule. Alors, Hazard revient de blessure, il a joué une demi-heure l'autre jour, mais il peut bien jouer une heure à Paris, quoi.
Quand tu vois cette équipe, là, qu'est-ce que ça t'inspire pour mercredi?
Bah, écoute, en termes d'individualité, ça a de la gueule. Après, comme l'a dit Fred, il y a eu des matchs qui se sont déroulés depuis le début de saison en championnat. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Ça ressemble un peu à ce que vit le PSG, mais le PSG, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de. Si tu compares les individualités, il y en a beaucoup qui sont pas là.
Bah, c'est
donc
ça. Ouais.
Le Real a un petit temps d'avance de ce côté-là. Mais bon, cette équipe, si elle prend forme vraiment et qu'ils tirent tous dans le même sens, je pense qu'elle peut faire mal.
Alors, tour d'Europe, parce que vous n'êtes pas autour de la table. Votre match phare de la semaine et les dernières infos à savoir sur la Ligue des Champions, Simone, puisque tu es là, tu peux démarrer.
Bah, même si mon cœur dit que le match phare, c'est la première de l'Atalanta en Ligue des Champions, historique, bah, on ne peut pas que partir de la revanche de l'huitième finale de la saison dernière, Atlético Juve. Il n'y a pas de très bonnes nouvelles concernant la Juve, parce que les examens sur Douglas Costa ont mis en évidence une blessure musculaire. Donc, nouveau test en 15 jours, mais sûrement il sera forfait pour le match face à l'Atlético. Et Douglas Costa a été un des meilleurs en ces débuts de saison de la Juve, et sa blessure a vraiment handicapé la Juve face à la Fiorentina ce week-end. Pjanic, c'est pas un lésion musculaire, c'était seulement un petit souci, mais aujourd'hui c'est pas entraîné avec les groupes, il s'est entraîné, mais quand même il y a encore beaucoup de doutes pour savoir s'il va être disponible avant que parler d'être titulaire. Donc on va voir, possible qu'il soit Betancourt à sa place. Et pour le reste, globalement il y a beaucoup d'interrogations sur une éventuelle tourne vert. Même Higuain n'était pas sorti au 100% du match de la Fiorentina. Il semble étrange que, après avoir fait très peu des changements, Maurizio Sarri ait fait jouer Dybala à la place d'Higuain. Donc, Juventus qui arrive pas au top niveau. Ces matchs face à la Fiorentina étaient vraiment presque catastrophiques pour moi à niveau de engagement, de résultats, c'est 0-0, mais des occasions créées, c'était vraiment les pires matchs du début de la saison de la Juve. Et là, ça arrive à un test très très compliqué face à Atlético, que Fred nous dira, mais va pas trop bien. Mais
bah, il a perdu son premier match.
Il y a beaucoup de points d'interrogation chez la Juve.
Bah, on peut, si tu veux, Gilbert, on va donner vite
l'Atlético.
L'Atlético qui en était à 3 victoires, mais des victoires quand même à l'arrache, a perdu, mais tout à fait logiquement, à la Real Sociedad, à Saint-Sébastien contre la Real, 2-0 ce week-end. Franchement, ils n'ont pas montré grand-chose, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, il y a plein de choses magnifiques dans le match entre l'Atlético et la Juve, c'est quand même le futur grand portugais et celui qui est le meilleur portugais et l'un des meilleurs du monde, c'est-à-dire João Félix, le futur Ronaldo tel qu'on l'appelle déjà, et Ronaldo, quoi. Voilà, c'est quand même un duel qui va être très intéressant à suivre.
En Angleterre, qu'est-ce qu'on dit, Julien? Le match de la semaine, c'est quoi?
Ah, ça peut être que Napoli contre Liverpool, hein, le champion d'Europe en titre, qui donc remet son titre en jeu et qui se rend au Napoli, à Naples, là où la saison dernière ils avaient été battus en phase de poule. Rappelez-vous, ils étaient dans le groupe du PSG aussi et ils avaient beaucoup souffert à l'extérieur. Ils avaient perdu à Naples, ils avaient perdu à Paris, ils avaient perdu aussi à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc on va voir comment cette fois-ci ils approchent ce match à l'extérieur à Naples. Au niveau du groupe emmené par Jurgen Klopp en Italie, toujours pas d'Alisson dans les buts, même si Adrian l'Espagnol fait, pour l'instant en tout cas, le remplace plutôt bien. C'est pas la même chose quand on se rappelle de à quel point Alisson avait été important la saison dernière, et notamment, Simone, rappelle-toi l'arrêt sur Milik à Anfield lors du match retour contre le Napoli, justement, qui leur permet de se qualifier.
Change la vie
complètement. Donc pas d'Alisson, pas de Naby Keita qui lui aussi est toujours blessé. Origi s'est blessé en championnat contre Newcastle, donc il sera pas là non plus. Mais on avait un petit doute sur Andy Robertson, l'arrière gauche, et qui finalement lui est bien dans le groupe et devrait être titulaire. Donc on devrait être sur l'équipe type de Liverpool pour ce déplacement à Naples.
Polo, le match phare pour toi cette semaine en Allemagne?
C'est demain, c'est Dortmund-Barça évidemment. On l'attend beaucoup ce match-là parce que, enfin, on en parlait un petit peu avec Fred hier soir. C'était son deux clubs qui s'évitent. Ils se sont pas rencontrés depuis 1998.
Mais c'est vrai que c'est toi qui m'as donné cette information-là, parce que on avait tellement l'impression que Borussia, il est tout le temps contre les clubs espagnols, mais en face, c'est contre le Real, mais jamais contre le Barça.
C'est quoi, 98, c'est ça le dernier match? Pardon, 1998, c'était la, ouais. comment on appelle ça à l'époque, la Super Coupe d'Europe, tu sais, les, où ils s'affrontaient. J'ai revu les équipes, enfin, ça, on prend un coup de vieux. C'est assez intéressant parce que, évidemment, j'ai pas envie de forcément de vous parler des absents du match demain, mais surtout ceux qui étaient présents à domicile ce week-end pour mettre une pâtée à Leverkusen, le 4-0. Et il est fort possible que Lucien Favre ait trouvé son véritable 11 de départ pour demain. C'est-à-dire que, vous le savez, Schultz est blessé, Piszczek était absent aussi. Ça a été remplacé par Hakimi, le joueur prêté par le Real, qui honnêtement Fred, si vous pouviez le laisser au, à Dortmund, ce serait bien.
Il est bon.
Il est assez exceptionnel quand même ce joueur. Et puis
Achraf Hakimi, international marocain.
Ah ouais, il est,
enfin, ouais, il est fort.
Il est super fort. Quoi. Et le comment s'appelle le Guerreiro, l'international portugais, qui a été placé au poste d'arrière gauche, qu'on fait des excellents matchs. Il y a un trio en ce moment qui est en folie. C'est évidemment Sancho, l'anglais Marco Reus, et puis Paco Alcácer qui a juste marqué dans tous les matchs avec le Borussia qu'il a joué cette saison. C'est quand même assez intéressant. Et peut-être il y a juste un petit doute sur le côté gauche entre Julian Brandt international et Thorgan Hazard pour la place au poste d'ailier gauche, parce que Julian Brandt n'a pas été non plus exceptionnel contre Leverkusen. Par contre, ça va très très vite devant. On attend beaucoup ce match-là aussi. Il y a beaucoup d'émotions parce que n'oublions pas, il y a un petit gardien du côté du Barça qui s'appelle Ter Stegen, qui a été lancé par Lucien Favre à l'époque où il était au Borussia Mönchengladbach, et on pensait que le club d'ailleurs à l'époque allait descendre en seconde division. Donc il y a beaucoup d'émotions. Il y a Paco Alcácer aussi, qui est quand même un ancien de la maison.
Qui a reconnu que beaucoup de personnes s'étaient mal comportées avec lui au Barça.
Ouais, mais bon, il est pas mauvais du tout. Bon, n'oublions pas qu'il est arrivé l'année dernière déjà en faisant certaines performances. Ouais. Il avait quasiment pas joué pendant 2 ans. Donc c'est vraiment assez intéressant cette rencontre qui me semble, dans les matchs de groupe en tout cas, une véritable belle rencontre demain.
Oui, quelques instants, on continue. Les gars, bougez pas, on revient très vite. C'est terminé entre Lens et Châteauroux. Jordan Olivier est-il toujours là?
Effectivement, Gilbert, victoire du Racing Club de Lens 1-0. Un but de Tony Mauricio à la 55e. Les Castelroussins ont terminé la rencontre à 10 contre 11. Les 100 et Or sont désormais 10e au classement. Châteauroux et Lanterne Rouge.
Merci Jordan, bonne soirée.
Il y avait un Guillaume Mauricio, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui joue à Laval.
Tout à fait.
Oui. J'ai joué contre lui.
Ouais. Voilà, Mauricio.
Dans quelques instants, le sud de l'actu européenne, avant de revenir sur les championnats de ce week-end, toujours la Ligue des Champions, évidemment. Plus Julien Cazard qui arrive dans un quart d'heure. A tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Jérôme Bretagne, Kylian Diaz, Florent Gautreau, plus les drôles de dames. Petite info qui nous arrive, la Mandzukic, mon cher Simonet, va signer au Qatar, à Al Rayyan.
Ouais, demain, on annonce. Ça devrait être les jours de la signature. En Italie, ils sont presque sûrs de ça, après en attendre, mais c'est étrange. Hein. Il voulait pas tout et tout partir.
Oui, alors là, on lui propose 750 000 euros par mois.
Ouais,
alors, je ne sais pas si ça peut aider à partir quand même.
Ouais. Après, il a refusé Manchester United, il a refusé le PSG pour aller signer dans un club.
Je crois que c'est l'amour du maillot, là aussi, non?
Ouais, le projet sportif.
Ouais. Je pense que le projet, il l'a. Hein.
C'est un gros projet.
750 000 par mois, à son âge, ça fait réfléchir.
Bah, il est à combien à la Juve?
La Juve sur le 3,5 millions net.
Ah oui.
4. Ouais, un truc comme ça.
Ouais. Là, c'est le double.
Ah ouais, c'est vrai que c'est tout juste. Hein. Bah, vous savez ce que dit le président de l'Atlético, qui est quelqu'un qui a beaucoup réussi, qui a bien réussi, qui gagne beaucoup d'argent, qui est l'un des plus gros producteurs et distributeurs de ciné. Quand on lui parle d'argent, il dit, mais il arrive un moment, même si t'aimes les gambas, tu peux pas manger plus de gambas que ton corps ne veut, quoi. Tu vois, tu peux pas manger plus de foie gras que ton corps ne peut. Donc, à un moment, c'est quoi la différence entre avoir 4 millions ou 5 millions de salaire, quoi. Tu vois, il y a un moment, t'es riche, tu peux avoir tous tes caprices, quoi. Donc, tu vois, franchement, il a pas déjà une vie extraordinaire avec, 4 millions net par an et tout ce qu'il fait.
Non, mais c'est surtout que là, aujourd'hui, il est complètement carré à la Juve, donc, il a envie de peut-être
d'aller. On fait un débat sur les grosses fortunes, là, ça m'intéresse, là, moi.
Oui, Polo.
Non, mais c'est.
Alors, toi, t'es pour une taxation à 90%.
Ouais, c'est une grosse fortune dans le monde. Non, ce serait intéressant de voir sur les 1% les plus riches du monde, quand même, parce que c'est pas tout à fait le discours qu'on entend habituellement.
Alors, pour conclure sur la Ligue des Champions, avez-vous une info supplémentaire à donner avant qu'on passe à vos championnats respectifs? Fred.
Bah, Messi, il est du voyage, quoi, parce que Messi a pas encore joué cette saison. Il a même pas pu faire la tournée aux États-Unis.
Il ne sera pas titulaire.
Non, mais
c'est lui qui
après,
décide.
On ne sait jamais. Ce qu'a dit Valverde tout à l'heure, c'est Messi. a eu une évolution des dernières heures extrêmement positive, une évolution de sa blessure extrêmement positive. Demain, le jour du match, nous allons décider.
Décider, d'accord. Ouais, donc c'est lui qui va décider.
Mais voilà. C'est quand même étonnant qu'il soit titulaire. Le mec n'a pas joué, il a pas joué cette saison. Quoi.
Bah oui, oui, effectivement. Une dernière info anglaise à donner sur la Ligue des Champions, Julien.
Benjamin Mendy est de retour lui aussi dans l'effectif dans le groupe de Manchester City qui s'est donc déplacé en Ukraine, qui se déplacera en Ukraine pour jouer contre le Shakhtar mercredi soir. Donc bonne nouvelle pour Mendy déjà, parce qu'il a quand même eu beaucoup de soucis avec ses blessures, etc. sur les deux dernières années. Et pour Pep Guardiola qui si Mendy retrouve son meilleur niveau,
il sera le remplaçant de
Zinchenko.
Bah oui, voilà.
Exactement.
Bah c'est un peu
en
ça.
Tout cas, au départ. C'est ça, tout à fait. Mais bonne nouvelle pour lui quand même.
Simonet,
Naples retrouve Milik pour une première fois dans les groupes pour l'international polonais, mais ça devrait être titulaire pour la première fois Fernando Llorente, c'est un joueur qui connaît la première ligue.
Personne, on n'a pas dit une info de merde. Milik, Llorente, franchement, tu nous
excuse-moi, c'est grâce à Fernando Llorente. C'est grâce à Fernando Llorente que Tottenham a fait une finale de Ligue des Champions quand même.
Moi quand même. Quand j'ai vu t'as quelque chose à dire,
Non, vas-y.
Donc,
quelque chose de méchant,
levé le doigt.
Attends, parler. Donc là on apprécie.
Donc je veux dire à Jérôme Bretagne, si t'as rien à dire, tu me laisses parler.
Ouais, d'accord.
Ils sont là les gauchers. Hein.
Vas-y alors.
Et ça va être pas mal là au Media Football Club.
Vas-y, enchaîne.
Donc Fernando Llorente, j'ai pas l'impression qu'il passe exactement quand même dans le style de jeu du Napoli ces dernières saisons.
C'est une arme en plus.
Mais c'est ça. C'est un corner à la fin de match, il met la tête, quoi. On est d'accord, Simonet.
Ok, c'est pas plus.
Ah oui, c'est.
Mais c'est déjà beaucoup. Enfin, avoir une alternative. Vas-y, c'est ta zone, hein, je veux pas déranger, mais.
Non, mais. Vas-y, Simonet. Milik a eu beaucoup de blessures ces dernières années. Il fallait un 9 en plus. Il voulait prendre à tout prix Icardi. Quand ils ont compris qu'Icardi voulait pas vraiment venir à Naples, il y avait cette opportunité de Llorente libre. Llorente était content de retrouver un club quand même.
Oui.
Des
il est souvent libre, Llorente.
C'est vrai.
Il est souvent libre.
Il a une saison difficile.
Oui, il est libre.
Il est libre souvent.
Mais alors, attendez.
Attendez.
Excusez-moi, mais vous avez vu la carrière de Fernando Llorente? Non, mais vous avez vu la carrière de Fernando Llorente? Foutez de sa gueule.
Il y a beaucoup de bandes touches quand même.
Je lui laisse sa carrière.
Non, mais attendez. Je vais
me calmer parce que sinon je vais être.
De toute façon, je suis cool en ce moment, je suis hyper zèle, etc.
Donc
je vais pas m'énerver. Mais moi, non, mais sérieusement, je vous trouve un peu méprisant. Un peu méprisant quand tu vois le CV de ce mec. Voilà.
Ouais, mais Fred, non, mais il faut jouer. S'il s'inscrit pas dans la durée dans un club, Fred, c'est qu'il y a un problème quand même.
Ouais, mais tu sais, le jour où il sera avec ses petits-enfants.
T'as vu les matchs qu'il faisait avec Tottenham il y a encore deux ans. Mais il y a deux ans. Et là, il a fait quelques matchs parce qu'il y a eu beaucoup de blessés. Mais tu peux pas me dire que lui.
Mais il a été décisif dans des moments importants.
D'accord. Et tu me disais quoi?
Mais c'est un grand joueur. J'ai dit qu'il a fait.
Dossier suivant, on va pas faire 10 minutes.
Il a fait une belle petite carrière. Et qui est encore une
fois. Dit le contraire. Ça oui.
S'il vous plaît, pour une dernière info Ligue des Champions.
Upamecano qui retrouve le groupe aussi de Leipzig, c'est important.
Ça, oui, ça c'est autre chose.
Lui, il sera titulaire.
Non, il revient de blessure.
Ouais, il sera sur le bord.
Imagine quoi, ouais. Ce soir. Okay. Bon. T'es un peu acide là.
Et Fred, moi j'ai une question pour Fred. Vous partez, la délégation à Madrid, vous partez quand là?
Moi je prends pas le même avion.
Ah, t'es pas.
C'est-à-dire
pas
que moi je prends le Air France de 12h15.
Ah, c'est bizarre.
Mais le Real a son propre avion.
Donc, ah, d'accord, je pensais qu'il y a tous les salariés. Ah,
déjà que tu as piqué ta place à la conférence de presse, j'ai vu ça là.
Ah là, ce jeune, un petit jeune de Radio Marca qui s'est mis au premier rang devant à ma place.
Ah.
Bon, ça, j'ai pas voulu faire d'esclandre. On se dit en ce moment, je suis cool, zen, la vie.
Ah ouais, j'ai vu ça sur. Mais
le mec,
t'as pris ton compte.
C'est comme les places dans le bus de l'équipe de France.
Oh l'ancien, c'est Evra qui a piqué sa place par Nasri.
Ouais, c'est ça. Je me suis senti Thierry Henry là, tu vois.
Non,
j'ai repris et malgré Twitter, bon, je continue Instagram parce que c'est vraiment les gens les plus gentils.
Ouais, ouais.
Mais j'ai repris Twitter, mais ça va. Pour l'instant, ça va.
Bon, ça va.
Dans quelques instants, les championnats, bien sûr, revisités par les drôles de dames. On revient sur ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu de gros matchs en Allemagne, notamment, mais pas que. Donc, on va analyser tout ça ensemble dans quelques secondes. Jérôme.
Ciao, buonasera.
C'est quoi tu fais quoi demain là? Fais-nous un peu rêver là.
Demain, je m'en vais demain matin à Lyon.
Lyon-Zénith.
Toi, t'aimes les grands voyages, toi.
Ouais, mais Lyon, je vais m'éclater là-bas. Je suis sûr qu'ils vont être au rendez-vous.
Bon, mercredi, tu seras pour toi avec nous.
Forcément.
Tu seras dans l'after.
Au parc après.
Ouais.
Et puis, je finis la semaine jeudi, Europa League à Rennes. Tranquille, Rennes-Celtic.
Mais on va pas se voir, en fait.
Rennes-Celtic, pas mal.
Eh si, demain.
Mercredi, je reviens à Madrid parce que j'ai un beau match Atlético Juve.
Oh, vous avez des semaines, les gars.
Jérôme,
des semaines de travail incroyables.
Par contre, ça fait chier parce que je finis dimanche à Chelsea, Chelsea-Liverpool. Quoi. Ça m'emmerde, quoi.
Le pauvre.
Allez, bisous à tous.
Salut, Jérôme. Dans quelques instants, Julien Cazard prend ta place. Les drôles de dames restent avec nous, bien sûr. On se retrouve tout de suite.
RMC. Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Gilbert Bribois.
Sacré jaloux. Florent Gautreau est là. Kevin Diaz est là, les drôles de dames sont là et Julien Cazard nous rejoint. Salut Julien.
Salut. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon ami Simone Rovira.
En vrai.
Et qui, je sais pas ce que tu trempes dans la sauce, mais il faut que t'arrêtes. Parce que là on dirait Luciano Pavarotti. T'as pas pris du... Ou alors c'est la barbe, je sais pas.
Ouais, c'est la barbe.
Là, c'est... là j'ai cru que t'allais me faire la... T'allais partir à la Serie de Milan, me faire Aïda là.
Je sais pas ce que tu trempes dans la sauce.
Tu veux que je chante aussi ou...
Oui, je sais pas, tu commences à faire cantator.
Non, on arrête. Merci.
C'est pas encore du
travail. Le vrai chanteur parmi vous tous, c'est Fred Hermel. Excusez-moi.
C'est tous, évidemment.
Fred qui chante Barbara ou Guy Béard ou Léo Ferré, il n'y a pas mieux.
Il serait temps d'en parler à ta mère. Merci.
Bon. Alors, on va parler de vos championnats respectifs, mais d'abord une histoire turinoise absolument incroyable que va nous raconter Simonet. Histoire du jour concernant les supporters de la Juve.
Oui, 12 capos ultra, donc qui appartenaient à plusieurs groupes historiques du virage sud de la Juve. Des mecs bien, quoi. Des mecs bien, déjà une passée aussi en prison, donc c'est des choses qui arrivent.
Oui.
On était arrêtés ce matin pour extorsion, violence, association criminelle. En bref, l'histoire est très simple. Les capos ultra demandaient à la Juve d'avoir des billets. Ils payaient les billets, bien sûr, mais après, ils les achetaient en quantité supérieure à ce qui était légal et les revendaient derrière, donc faisaient des profits sur la revente du billet. Et demandaient à la Juve d'avoir les billets. Si la Juve n'acceptait de donner ces billets, n'acceptait pas de les laisser aussi gérer un peu les affaires à l'intérieur du virage, la menace, c'était de faire sanctionner la Juve avec des chants racistes qui amenaient à des sanctions, avec la fermeture du virage ou de bagarres encore dans les virages, d'empêcher à certains gens de pouvoir s'asseoir ou prendre place dans les virages, ou encore quoi, simplement de faire la grève du tifo. Donc personne ne peut chanter si les capos ultra ne donnent pas la
possibilité. Donc ils n'avaient pas le club en otage, quoi.
Les clubs étaient pris en otage.
Non, ça s'appelle les South Winners.
Non, mais non, c'est pas ça.
Ça, je plaisante.
C'est une blague de Julien. C'est une blague, mais à une époque, sans extorsion de fonds, il y avait un deal entre l'OM et les
Marseille pendant longtemps
pour qu'ils récupèrent, ils fassent de l'argent sur les places.
Pendant longtemps, ils commercialisaient eux-mêmes les abonnements.
Voilà. Mais donc, on n'allait pas jusqu'à des menaces, quand même. Pas déconner.
Dans les virages.
C'est le club qui a dénoncé ça. Les procureurs de Turin a dit le club bien sûr est une victime. On a les preuves de tout ce que se passait, qu'il y avait de la violence, qu'il y avait des menaces avec la violence.
Ce qui est dingue, Simonet, c'est que ça arrive à la Juve. C'est-à-dire que c'est le club le plus puissant d'Italie, où tu te dis bon ils sont à l'abri de choses comme ça.
Bien sûr, et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard que aujourd'hui, dans toutes les choses qu'il a dit à la conférence de presse, les procureurs de Turin disaient nous on a presque la certitude que ça arrive aussi dans deux autres clubs. C'est pas c'est un peu la première fois que ça sort. Il y a des arrestations, mais qu'il y a certains clubs qui sont un peu en otage des attitudes, de la criminalité et du tifo organisé. Bah, en Italie, c'est plutôt connu, ça.
Je crois que le LS Vérone, il menace de ne plus faire de chants racistes si on ne leur donne pas d'argent.
L'LS Vérone, c'est une chose étrange.
Très connu pour ça, malheureusement.
Hier soir, il y a ces chants racistes contre un joueur du Milan, que s'il y a la solidarité de tout le monde du football. Et ce matin, l'LS Vérone fait un tweet en disant mais non, mais ce n'était pas des chants racistes, vous avez été trompé. Il y avait trop de bruit par nos supporters qui sont des gladiateurs, qui chantaient pour nos gladiateurs. Et bon, vous vous êtes trompé.
Ouais, ça arrive de se tromper. Hein.
Oui, ça arrive de se tromper, mais moi j'ai démêlé mes demandes.
Ça, c'est un scandale. Le club lui-même, donc, met le mouchoir.
Est-ce qu'on peut se poser la question si le club veut défendre ses supporters ou doit défendre ses supporters?
Ils sont menacés par les supporters, peut-être.
Ouais, voilà. Si même la Juve, qui est le club le plus organisé, le plus puissant, les plus riches, doit faire attention à les relations avec ses supporters, les petits clubs, ils font quoi?
Ouais, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté. Ça coûte cher et c'est dangereux. Il y a deux clubs en Espagne qui ont éliminé les néo-nazis et ceux qui menaient les extrémistes de tous bords. Le premier, c'est Joan Laporta, président du Barça, qui a éliminé les Boixos Nois. Ça lui a coûté un an de menaces et d'être sous protection policière, lui et sa famille, pendant un an. Florentino Pérez, d'expulser les ultrasources, ça lui a coûté la profanation de la tombe de sa femme. Oui, c'est difficile. C'est dur dans la vie privée des dirigeants qui prennent ces décisions. Mais quand ils ont courage de le faire, eh ben, on peut avoir des stades propres.
Claudio Letito, le président de la Lazio, lutte depuis des années contre une certain groupe de supporters. Et il vit avec une escorte.
C'est pas si simple. Bon, voilà, c'est une histoire du jour importante à raconter. Juste un mot, parce que absolument hallucinante.
Sur ces histoires de racisme, il y a un consultant de la télé italienne qui s'est fait virer.
Il a été magique. Extraordinaire.
C'est
en direct.
Sur Lukaku. Qui a fait une sortie totalement horrible, débile, raciste, mais il voulait même pas être raciste, il voulait faire une blague. C'est un ancien dirigeant, imaginez, c'est un ancien dirigeant de l'Atalanta qui a 77 ans, si je ne me trompe pas, qui a dit cette phrase, la seule façon d'arrêter Lukaku, c'est de lui jeter des bananes pour le faire manger. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une phrase horrible.
On peut quand même dire que cette blague est de très mauvais goût.
Merci Kevin Diaz.
C'est que sans Kevin, moi j'étais persuadé que c'était bon goût.
Quand même, il faut prévenir Julien Cazard.
Moi je trouvais ça drôle.
Déjà, sa blague sur les supporters marseillais, je pense qu'elle n'est pas passée inaperçue.
Ah bon?
Ouais, je pense.
Ils ne captent pas Marseille ici.
Merde. Radio numéro 1 Marseille.
Ah, ouais, non, c'est France Culture.
En partie grâce à toi.
Excuse-moi.
Comment vous dire que la chaîne, les soirs même, a communiqué que plus jamais cet homme sera invité dans l'émission. Et j'ai regardé une petite chose. Cette année, c'est la première année que l'Atalanta joue la Ligue des Champions. J'ai regardé dans les archives. L'Atalanta, vous savez, ça a fait demi-finale des Coupes des Coupes, 87-88, et jouait la Serie B. L'année avant, était arrivé en finale des Coupes d'Italie. Bah, cet homme-là était dirigeant dans cet Atalanta qui arrivait en finale des Coupes d'Italie en 86-87.
Bon,
c'est un cas. Est-ce que c'est lui qui a entendu parler de Franck Sauzé en 93?
Je sais pas.
Non, ben ouais, mais si tu sais pas, mec.
Petit retour maintenant, enfin même gros retour, on a le temps sur vos championnats respectifs ce week-end. Que faut-il retenir de ce week-end anglais? Avant tout, Julien.
Alors avant tout, on va commencer par le champion en titre, hein, Manchester City, qui est battu à Norwich. C'est la première fois depuis mars 2014 que Manchester City perd contre un promu. Ça faisait 25 matchs de suite qu'ils n'avaient pas perdu contre un promu, 20 victoires et 5 défaites. Et là, ils s'inclinent à Norwich. Un match où défensivement, ça a quand même été la catastrophe. C'était vraiment du très grand n'importe quoi. Les 3 buts encaissés par City, qui perd donc 3-2. Un Pep Guardiola plein de sarcasme à la fin du match en disant qu'est-ce que vous allez écrire maintenant demain, vous allez dire que Liverpool est champion mais on est au mois de septembre, arrêtez de vous enflammer un petit peu, on a que 5 points de retard, mais 5 points après 5 journées, c'est énorme quand tu penses que la saison dernière par exemple la première défaite de City avait eu lieu à Chelsea au mois de décembre à la 16e journée, là tu perds à Norwich à la 5e journée avec ces énormes lacunes défensives, avec la blessure de Laporte qui va je pense leur faire très 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 mal.
Julien, juste à propos de cette équipe de Norwich, j'ai eu le plaisir de les commenter contre Chelsea, c'était un super match et là ils ont encore été très bons. Est-ce que tu parlais justement de cette stat avec Manchester City et les promus? Est-ce que tu penses pas comme moi que c'est peut-être l'un des meilleurs promus depuis ces 10 dernières années en Premier League au niveau de la qualité de jeu proposé qui est vraiment exceptionnel? Et d'ailleurs Polo pourra nous le dire, mais c'est quand même très très germanique avec un entraîneur et je crois 7 joueurs allemands.
Ouais, c'est ça. Et puis Ouais, tout à fait. Non, mais après, Farke fait du très très bon travail, comme il l'avait fait en Championship la saison dernière. On les a vus à Liverpool. Rappelle-toi, Kevin, on en avait parlé après la première journée où ils avaient pris une valise, mais ils avaient très très bien joué à Anfield. Ils avaient sûrement d'ailleurs été la meilleure équipe après la pause en seconde période que Liverpool. Et c'est vrai que pour l'instant, dans ce match-là, en tout cas, ils ont tout fait bien. Ils avaient très bien étudié le jeu de City, notamment sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ils ont marqué sur un coup de pied arrêté où le marquage en zone de Guardiola a complètement été pris à défaut par justement la tactique sur les coups de pied arrêtés de Norwich. Ils ont joué en contre, en transition quand il fallait, c'était parfait. C'est comme ça qu'ils marquent le deuxième but et le troisième but. Ils pressent très haut, ils pressent intelligemment, même si Otamendi fait une énorme erreur. Mais non, t'as raison, c'est sûrement un des meilleurs promus. L'effectif, donc le 11 titulaire, en plus il leur manquait beaucoup de joueurs, notamment défensivement. Le 11 titulaire de Norwich samedi, il valait 7 millions d'euros. Le 11 titulaire de Manchester City, il valait 400 millions d'euros. Alors ça veut rien dire, hein. Si Norwich avait l'argent de City, un peu, il dépenserait. Oui, mais non, mais c'est parce que Norwich, ils n'ont pas d'argent qu'ils le dépensent pas. Si tu veux, tu vois, Florent, s'ils avaient l'argent, ils dépenseraient de l'argent comme tous les clubs. Mais ça montre quand même qu'ils savent se débrouiller et faire des équipes très compétitives avec bien sûr Timo Pukki, leur attaquant finlandais, qui est la trouvaille, la révélation, la surprise de ce début de saison en Angleterre. Mais c'est vrai que c'est un choc qui a fait beaucoup de bruit en Angleterre ce week-end.
C'est quand même génial de se dire que l'équipe qui a le plus dépensé en argent pour les défenseurs centraux, ils en ont que des nuls. C'est plus de 500 millions d'euros dans les défenseurs centraux et ils sont tous nuls. Donc c'est quand même génial, quoi. C'est-à-dire que depuis le départ de Compagnie qui était cramoise, qui avançait plus, ils ont plus un mec bon. En même temps, c'est vrai que 500 millions d'euros, c'est pas énorme pour des gens comme nous qui sommes des people, mais c'est quand même un peu d'argent quand même.
Alors Guardiola, oui, qui a rappelé un truc marrant. Quel était son surnom lors de sa première saison?
Donc effectivement, les Anglais l'appelaient Fraudiola, donc en disant que c'était une fraude en fait, que c'était censé être le meilleur du monde. Et la première saison à City, c'est vrai qu'elle est assez décevante à beaucoup de niveaux.
Fraudiola, c'était un peu osé quand même. Il avait quand même un certain passé avant d'arriver. Bon.
Ah mais oui, ça passe qu'il passe en dehors de l'Angleterre.
Vous savez ce que veut dire son nom. Les Anglais, non mais les Anglais, ils plaisantent pas parce que ils avaient eu l'impression que Guardiola était arrivé en Angleterre en faisant le donneur de leçons. Je vais vous montrer comment on joue. Je vais vous montrer le tiki-taka ou en tout cas le.
Guardiola donneur de leçons. Franchement.
J'arrive chez vous et là il. Et il avait vraiment eu du mal et les Anglais s'étaient délectés du fait qu'il était arrivé effectivement comme ça et que ben et je me rappelle de certaines unes de presse qui disaient mais tu viens pas chez nous et nous apprendre à jouer au football, c'est nous qui l'avons inventé le football. Et c'est vrai que c'était très bizarre samedi qu'il ait réagi de cette manière-là après la défaite.
Julien, Klopp a dit la même chose à Liverpool. Hein. Au début.
Sa première saison, mais au moins la première saison, il arrive en finale de l'Europa League. Même s'il finit que 8e.
Pas défaut, c'est tendu pour lui au début.
C'est un petit peu tendu avec les supporters aussi. Il avait critiqué un petit peu Anfield, les gens qui partaient avant le coup de sifflet final, de ce genre de choses-là. Mais c'était différent de Guardiola. C'était vraiment même s'il a eu un petit peu de mal, c'était pas la même chose. Mais là, que Guardiola revienne sur, rappelez-vous ma première saison, vous disiez que j'étais une fraude, j'étais Fraudiola, etc., etc. Ça montre quand même un certain malaise et je pense que, voilà, c'est un petit peu compliqué en ce début de saison.
Vous savez comment on est sur Guardiola, ce que signifie le nom de Guardiola?
Non.
Tirelire. Ah bah Guardiola, oui. En catalan, c'est la tirelire.
Ah, c'est pas mal pour un footballeur, ça.
Bah ouais.
Oui, tu aurais pu jouer avec chaque Diabaté.
Quand tu dis. Ah, wow!
Oh. T'as meilleur, mais on la prend.
Quinton Fortune.
Oh!
Malheureusement, Ronald Pognon.
Au stade Francis Leblay. S'il vous plaît. Non, Ronald Pognon, il faisait pas.
Il joue pas, non, il joue pas.
Il joue la course, lui, là.
Enfin, il aurait pu largement jouer à Toulouse, hein. Vu qu'il est coureur de 100 mètres.
Piémonet Paquet aussi, mais bon. Passons à Polo.
Thorsten Frick. Ah non, ça compte.
Non, ça marche pas. Tu as eu deux énormes chocs ce week-end. Qu'est-ce qu'on en dit quelques heures plus tard?
Écoute, j'ai pas entendu ta question, mais je pense que tu veux parler de Leipzig Bayern, je pense, non?
Oui, je veux parler des deux gros chocs, en fait.
Oui, les deux gros chocs. Ouais, le week-end était un peu dicté par ça. Ouais. Écoute, ce qui est très intéressant, c'est que Leipzig a été humilié en première mi-temps par le Bayern d'une façon assez critique. Le 3-3-2-2, spécialité de Nagelsmann, a été pointé du doigt, parce que les joueurs, en fait, ils savent pas trop comment ça fonctionne. À tel point que Michael Ballack, si tu veux, qui joue aussi les consultants maintenant, en a profité
profité pour tacler Nagelsmann en lui faisant comprendre que c'était certes un entraîneur qui était très très évolué et qui allait devenir l'un des meilleurs entraîneurs du monde, mais il était tellement bon à son âge que ses équipes comprennent pas ce qu'il veut, quoi. Donc c'est un petit peu intéressant. Il a été forcé, donc en fait c'est le problème, c'est qu'il y a 1-1 à la mi-temps parce que Lucas Hernandez qui a été forcé en fait de décaler sur le côté gauche puisqu'à la bas a eu un petit problème musculaire juste avant la à l'échauffement. Le si tu veux, il a provoqué un penalty qui était complètement inutile, ce qui permet à Leipzig de rester dans la rencontre à la mi-temps. Et Nagelsmann fait un changement tactique, il revient dans une défense à 4 et à ce moment-là, on commence à voir le Leipzig qu'on veut voir absolument cette saison. Et le match s'équilibre, même si le Bayern a poussé en fin de deuxième mi-temps. D'ailleurs, à 92e minute, Süle fait une tête qui s'écrase sur le poteau, enfin qui était touché par Gulácsi, le gardien hongrois, qui touche le poteau. Et c'est assez intéressant parce que si tu veux, dans la presse, on était presque pour la première fois pour Leipzig, mais c'est pas pour Leipzig, c'est contre le Bayern. Et ça, c'était assez intéressant parce que on se dit, mais quand même, il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Mais ce Bayern qui est supposé vieillissant, même s'il y a eu des nouveaux, rappelons que Coutinho était sur le banc et que Thomas Müller, qui a fait un superbe match au passage, était titularisé derrière Lewandowski. Ce qui était intéressant, si tu veux, c'est que toutes les critiques qu'on a contre le modèle Red Bull, etc., comme on faisait à l'époque il y a une dizaine d'années les critiques du modèle Hoffenheim, quand on voit la façon dont il joue et quand on voit comment le club se développe, ben finalement, au fur et à mesure, ça s'amenuise un petit peu. Donc c'est un très bon résultat pour Leipzig en fait. Lorsqu'on voit globalement la rencontre, surtout, ça permet d'avoir un classement qui est encore complètement figé et qui Leipzig est en tête du championnat. Donc c'est ce que je voulais dire. Juste en défense centrale, ne l'oublions pas, il y avait Konaté et Mukiele, l'ancien Montpellierin, qui étaient titulaires. N'oublions pas qu'ils n'ont que 20 piges. Et vu comment ils ont résisté au Bayern, je pense qu'on peut penser à eux dans quelques années pour l'équipe de France. Parce que s'ils continuent à se développer comme ça, et Konaté notamment, qui a un excellent développement, je pense que c'est très intéressant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Coman, excellent.
Coman, il continue sur sa lancée de l'équipe de France.
Ouais, il continue, il est très bon. C'est la première fois, peut-être, depuis que je le vois jouer au Bayern, qu'il fait 90 minutes quasiment complètes. Enfin, il n'a pas fait 90 minutes, mais qu'il joue vraiment tout le temps. Et important aussi, je crois qu'il y a eu, il y avait 7 Français qui ont foulé la pelouse du Red Bull Arena. Je préfère l'ancien nom, le Stade du Peuple. Mais c'est un record.
Bon, je suis d'accord avec Polo, excusez-moi, mais. Voilà. Bon.
Eh ben, le peuple, c'est lui qui paye? Non, c'est Red Bull. Merci, monsieur.
Eh ben, très bien. Ben, ils peuvent payer sans prendre le nom du stade. Stop au naming.
Oh là 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 là.
Ah ben non, en Allemagne, le naming, c'est important. Mais ça, c'est un très bon débat à faire.
Moi, je j'aime pas.
Au passage, le fameux club qui part à queue d'argent n'a toujours pas mis de naming sur son stade à Paris. Merci.
Ils l'ont pas vendu.
Ben oui, voilà, y a pas de naming.
Ça lui appartient pas.
Mais si,
ce que tu ne sais pas, c'est que le naming existe déjà, mais c'est pour une marque de gâteau que t'as mangé.
Oui, les gâteaux Prince, oui. C'est pas le prince. C'est pas le prince Altani.
Boateng en défense centrale. Écoute,
le parc du prince.
Oui, Polo.
Oui, Boateng en défense centrale, il a fait un super match, ce qui pourrait peut-être amener une nouvelle concurrence. Alors que je rappelle qu'on ne savait même pas s'il allait finir la saison, enfin s'il allait commencer la saison au Bayern Munich.
Dernièrement, quand tu nous parleras de Leipzig et d'un match à Leipzig, tu le diras au Stade du Peuple.
Ah, si tu veux le Volkswagen.
Ouais. Si tu veux bien.
Oui. Sauf qu'ils ont réduit la capacité. T'as remarqué
que c'est comme ça, les Volkswagen, c'est les voitures du peuple.
Oui, oui. Vous êtes tout ça rassurant quand tu me parles de ça.
Parce que dans il y avait le petit père du peuple. C'était forcément un mec bien.
Non, mais écoute, le terme peuple n'est pas forcément.
Mais allez-y, mais glorifiez le peuple. Le peuple, c'est aussi les gilets jaunes, n'oubliez pas ça. Ils ont bloqué pendant 8 mois. Merci pour eux.
Fred,
c'est dur de faire ça après soi. On parle de CD.
Oui, mais c'est ça la force de Julien.
On va faire un point samedi après-midi avec ça, avec le peuple. Tiens, tu vas se marrer.
Il est de plus en plus de droite qu'Aza, en fait.
Ouais, c'est vrai, hein, je pensais à ça, Polo.
C'est pas vrai, parce que les gilets jaunes, ils sont aussi parfois.
Ouais, ils sont plus de droite que moi, je te rappelle.
Pas tous.
C'est compliqué, c'est particulier.
Vous rendez pas compte, vous êtes loin de tout ça. Vous êtes
la fondé, Liga,
vous.
Qu'est-ce que tu n'as pas dit qu'il faut absolument retenir de ce week-end?
Bah, le leader, Séville.
Exactement.
Séville Football Club. Je crois que c'est au tout début de la saison, quand on parlait des possibles favoris ou des possibles trublions de cette Liga, j'avais évoqué Séville, pas parce que je suis visionnaire, tout simplement parce qu'à partir du moment où une grosse équipe avec un gros public, avec un bon entraîneur, avec peut-être le meilleur recruteur d'Europe, Monchi, qui a quitté Rome et qui est revenu au Bercail à Séville,
Bah, quand on a tout ça et qu'on ne joue pas la Ligue des Champions, bah, automatiquement, on a un petit avantage sur les autres, sur le Real, sur Valence, sur le Barça et sur l'Atlético qui, eux, jouent la Ligue des Champions. Séville ne joue que la Ligue Europa. Bon, surtout dans les premiers tours, c'est quand même assez facile pour eux. Et là, on a une équipe qui fonctionne bien. Il y a eu beaucoup de changements. Et puis, je vais pas vous cacher que moi, j'aime bien Julen Lopetegui et après tout ce qui s'est pris dans la gueule la saison dernière, le voir aujourd'hui réussir et être leader de la Liga, de le voir vraiment bien diriger cette équipe, voilà, c'était compliqué hier pour les Sévillans à la VES. Et pourtant, voilà, il gagne 1-0.
Est-ce que tu penses qu'ils peuvent être champions?
C'est compliqué parce que il n'y a pas non plus un banc hyper extensible. Mais être présent tout en haut et embêter le monde, oui. Mais de toute façon, on aura déjà une réponse très claire aux ambitions de cette équipe. C'est dimanche soir, match au sommet, Séville, Real Madrid. Et en général, les Madrilènes se prennent des fessées là-bas. C'était 3-0 la saison dernière. Donc, ça va être très intéressant de suivre le Séville de Julen Lopetegui. Pas la peine de vous rappeler qu'il s'était viré du Mondial comme sélectionneur espagnol 2 jours avant et qu'il avait été viré du Real 4 mois.
Oui, enfin bon, viré du Mondial à l'époque, vous pouvez le comprendre vu le contexte. Enfin, on peut pas refaire le débat.
Non, mais je veux dire, le pauvre qui s'est pris dans la tronche.
Oui, puisqu'il s'était engagé avec le Real alors que l'Euro n'avait pas commencé. Ouais, juste, alors que la Coupe du Monde n'avait pas commencé, pardon.
Justement, Fred, tu vas sûrement nous en parler, mais. Comment va ce Real justement alors avant cette semaine de Ligue des Champions?
On l'a évoqué tout à l'heure un petit peu quand on
parlait. T'as dormi tout à l'heure, Kevin?
Non, mais je veux dire. Ouais,
je pense que ça parle pas de l'Ajax, il est pas trop là. Donc.
Je voudrais pas me répéter, mais par rapport. Non, mais voilà, si
tu le vois comment, toi, le match face au PSG particulièrement?
Moi, ce que je vois et des discussions que j'ai pu avoir avec des joueurs ce matin, c'est qu'on sent que ça commence à prendre forme. Et on va préciser, il y a un joueur qui était perdu pour la cause, et j'ai James Rodriguez, vous vous souvenez, hein, James? Et aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, ça lui a fait du bien d'aller 2 ans en Allemagne, Polo. Aujourd'hui, c'est un joueur beaucoup plus professionnel, beaucoup plus avec une hygiène de vie réelle, adaptée à sa condition de footballeur de haut niveau, et qui s'entraîne bien, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. C'est la raison pour laquelle.
Un petit stage chez Tonton Ouli, et hop.
C'est quelqu'un d'important qui l'a dit aujourd'hui. Hein. 2 ans d'Allemagne, ça lui a fait du bien. Donc,
deux ans d'armée dans la Roure, il est revenu, mais en pleine forme. Son meilleur souvenir de vie.
Mais Polo, sérieusement, Polo, qu'est-ce qu'il a pu se passer là-bas?
Parce que plus que ça.
Polo, vas-y.
Je ne l'ai jamais apprécié plus que ça, et lorsque tu le voyais jouer, parce que le problème, tu évoquais, je me rappelle très bien, Fred, il y a quelques années, il me disait que Zil n'allait jamais au contact. Et que c'était un problème au Real Madrid.
Ah oui.
Et en fait, quand tu vois Raimi, il n'y va jamais non plus. Quoi. C'est-à-dire, quand il y a des matchs faciles. Il sait briller.
On dit pas Rames en allemand.
On dit Rames. Rames,
voilà. Même pas. Rames,
mais c'est Rames.
Et lorsque. Je suis un parallèle avec Ozil parce qu'on se plaignait toujours qu'il n'avait jamais au contact.
Mais il va toujours pas, Ozil, au contact.
Ouais. Mais je pense que Rames est plus un joueur plus compétitif qu'Ozil, qui est très beau à voir, mais qui.
Le problème, c'est que dès que ça monte de très haut niveau, tu vois, le match contre Liverpool en Ligue des Champions, on l'a pas vu, quoi. Donc c'est un peu compliqué, moi. Enfin, il me manque pas, hein, honnêtement.
Non, mais tu sais, Zidane n'en voulait pas, sauf que personne, y a pas Naples, mon cher Simonet, le voulait gratuitement, et ça, le Real, c'était hors de question. Ouais, ils espèrent en tirer 50 à 60 millions. Il n'y a pas eu de proposition ferme d'argent assez intéressante pour les Madrilènes. Il est resté, et je vous dis, moi, aujourd'hui, on m'a dit qu'il avait changé sa manière de fonctionner dans sa vie, et qu'aujourd'hui, il bossait l'entraînement. Et moi, je parle de Rames, parce qu'il y a quand même une grande chance qu'il soit titulaire à Paris, hein, donc, puisque Modric est blessé, donc ça peut être... voilà, c'est un joueur ultra technique que moi j'aime beaucoup, mais qui n'était pas, qui n'avait pas l'hygiène de vie nécessaire auparavant.
Simonet, on conclut par toi sur les principales infos du week-end. Que dit-on le lundi en Italie?
Il y a 3 infos. La première, c'est que avec la défaite ce soir du Torino contre Lecce, et l'Inter est première toute seule. 3 victoires, 3 journées.
Même question qu'avec Séville, ils peuvent être champions?
C'est compliqué, la Juve est tellement supérieure à niveau d'effectif, mais va jouer. L'Inter veut chercher d'être champion, joue pour être champion. le calendrier les a aidés. Udinese, Cagliari et Lecce, c'est les trois premières journées. On rappelle que la Juve a joué face à Naples, à la Fiorentina. Naples a joué face à la Juve, à la Fiorentina aussi. Donc, il y avait des adversaires un peu plus compliqués. Mais on voit que Antonio Conte a donné une âme à cette équipe et c'est déjà quelque chose de très important. Une réveil de la Roma qui trouve son première victoire en championnat. Mais pour moi, l'info la plus belle, l'histoire la plus belle à raconter, c'est encore une fois celle de Bologne. Bologne avec Mihajlovic qui est à l'hôpital, qui soigne sa leucémie. Il n'est pas sur le banc des touches. Il est mené 3-1 à la mi-temps par Brescia. Brescia était réduit à 10. Il y a l'appel de Mihajlovic de l'hôpital qui donne les consignes et dit « Bougez-vous ». Bologne gagne 4-3. Au retour des Brescia, surprise, toute l'équipe de Bologna, les bus de l'équipe s'arrêtent en bas de l'hôpital où Mihajlovic est soigné. Et pour le saluer, il faudra faire un peu la fête, un peu à la, comment on dit, Juliette Roméo.
Ils étaient en bas, puis balcon, ils faisaient signe.
Oui, voilà, c'est à la fenêtre. Et saluer, Sinisa, et Sinisa, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, bon, ok, bien. Mais mercredi, on va parler parce que le match, c'était pas du tout bien. Et donc, avec sa force, Mihajlovic arrivait même à rire un peu, à dire, quand même, il faut comprendre qu'il n'était pas du tout content. Et bien, vrai, il a remercié d'être venu. Mais Bologne est en train de faire quelque chose de bien et de deuxième cette année, deux matchs de victoire et une match nul. Donc, 7 points, premier avec la Juve derrière l'Inter, c'est la plus belle histoire pour moi, encore une fois, de la semaine.
Messieurs, on vous retrouve toute la semaine.
Gilbert, tu me permets une petite
avec
histoire
avec la Ligue des Champions et l'Europa League. Pour conclure, Fred, vas-y rapidement.
Rapide. Il y avait l'Assemblée Générale des Socios hier, donc des centaines et centaines de Socios qui représentent d'autres Socios. Certains étaient autorisés à prendre la parole devant tous les dirigeants, etc. Et un Socios a dit, voilà, Président, je vous demande de faire quelque chose parce que Sergio Ramos est ridicule avec ses vêtements. Le capitaine du Real Madrid ne peut pas s'habiller comme ça. L'autre jour, il ressemblait à une touriste suédoise.
Quelle a été la réponse de Florentino?
Je crois qu'il a un peu noyé le poisson.
Gilbert, je vais encore plus vite que Fred pour finir. J'ai la stat de la saison. Aujourd'hui, officiellement, James Milner, le joueur de Liverpool, a passé la moitié de sa vie en tant que joueur de Première Ligue. Il a fait ses débuts à 16 ans. Il y a 6154 jours avec Leeds à l'époque, et ben 6154 jours plus tôt, il était né. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle statistique de James Milner qui a donc passé la moitié de sa vie comme joueur de Première Ligue. Exactement aujourd'hui.
C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Ce qui signifie qu'il est plutôt sur la fin quand même.
Ah, il aura 34 ans le 4 janvier, il a commencé à 16 ans et 308 jours, mais 6154 jours, effectivement, c'est...
C'est le même calcul pour Hilton, pour voir...
Paganelli, ça, 16 ans et 308 jours.
Hilton, il a passé 88% de sa vie à Montpellier.
Voilà. Et le reste, moi, j'ai passé 40% de ma vie à RMC.
Ah, ça, c'est beau. Merci les gars, on se retrouve toute la semaine avec la Ligue des Champions, bien sûr, et l'Europa League. Dans quelques instants, Julien. Julien qui veut se mettre dans la peau d'un supporter, vous allez voir, petite surprise dans quelques instants.
C'est compliqué, non?
Oui, il n'est pas du tout dans la peau d'un supporter, vous l'aurez remarqué. Et puis le quiz à suivre évidemment au 32-16 si vous voulez participer dans quelques instants.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
So you want to go to Manchester, but how? About time you invented your own form of transport. What are you thinking? A kind of seat on wheels? Great. With free Wi-Fi, fancy food and some tiny bottles of wine? Yeah. And this invention, it goes at 125 miles an hour with toilets? You mad genius. What is this totally original creation of yours? Oh wait, you're gonna kick yourself when you realize. Virgin Trains, proudly serving you for 22 years. Free Wi-Fi available across 88% of all journeys excludes Voyagers.